Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver comme chaque week-end pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter les extraits les plus marquants des émissions de la semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mercredi, Ivan Cujus recevait Asaf Avidan, l'artiste israélien, qui sera en concert au Zénith de Toulouse en 2022 pour présenter son tout nouvel album « Ananiorisis », un album pour lequel il s'est inspiré du philosophe Aristote. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Merci d'être avec nous, Asaf Avidan. Ravi de vous accueillir sur Sud Radio en direct dans le Loft Music. Bonsoir, Asaf.
Bonsoir, thank you for having me.
Alors, dans votre album Ananiorisis, nouvel album d'Asaf Avidan, il y a notamment ceci. Mais dans l'album Ananiorisis d'Asaf Avidan, il y a également Earth Odyssey. Dans l'album, le nouvel album d'Asaf Avidan, Ananiorisis, il y a précisément le titre éponyme. Finally it's clear. It's always been you. Rain starts to fall. Follow it up. Dans l'album d'Asaf Avidan, Ananiorisis, il y a également Rock of Lazarus. Wake up, Rock of Lazarus. Dans le nouvel album d'Asaf Avidan, il y a également Darkness Song. Nous parlons ce soir du nouvel album d'Asaf Avidan qui est avec nous en direct sur Sud Radio dans le Loft Music. L'album s'appelle Ananiorisis. Alors, Ananiorisis, précisément, Asaf Avidan, eh bien, c'est ce terme qui signifie, voilà, qui parle de se retrouver, de retrouvailles, mais au sens où l'on se retrouve, on se trouve, on se découvre soi-même. Comment vous êtes arrivé à ce terme-là, je pense, créé par Aristote, il y a évidemment très longtemps. Comment vous êtes arrivé à chercher, à trouver vous-même ce terme-là?
How did you get to this word anagnorisis, which he thinks was originally created by Aristotle? It means, you know, finding yourself, but also discovering yourself. So how did you get to that word?
I got to it by reading Aristotle.
Justement, en lisant Aristote.
I have a book, it's called Poetics. It's a thesis by Aristotle. And it talks mainly about Greek drama and the morality of art.
Des tragédies grecques, la moralité de l'histoire, de l'art.
And I don't know, I was reading it and I was finding it kind of annoying.
Et je le trouvais un petit peu énervant.
It's very masculine. I mean,
c'est très masculin.
He knows exactly what is correct and what is not
correct.
C'est
exactement ce qui va, ce qui ne va pas, et il le dit, il l'assume.
And I was about to put the book down. I mean, again, I'm not anybody to reject Aristotle.
Encore une fois, voilà, je ne suis personne pour critiquer le style d'Aristote, mais ça ne me convenait pas en tout cas à ce moment-là.
And then I was reading this thing about peripeteia, and it's another term he coined called peripeteia, which is what comes after anagnorisis.
Je lisais ce dont il parlait aussi, qui s'appelle peripeteia.
It's a kind of dark catharsis.
Qui est ce qui vient après l'anagnorisis, pardon.
And I read this term anagnorisis, and I just had this eureka moment.
J'ai eu un espèce de moment en fait.
I realized that everything I was writing in the previous
tout ce que j'ai
year
durant
that I felt
passées,
was completely random, was completely unattached to each other.
C'était un peu comme si tout était détaché.
Everything fell into place.
J'avais écrit auparavant, et là du coup tout a pris un certain sens.
It was apparent that I was writing about the search.
Et j'ai compris que j'écrivais
au sujet
de la quête de moi-même, de la découverte de moi-même, que je me cherchais justement à travers toutes ces voies.
Asaf Avidan, vous citez quelque chose de très joli, et vous attribuez cet aphorisme à votre grand-mère, vous dites « Les hommes font des plans et Dieu rigole ». Est-ce à dire que donc vous ne croyez pas au hasard, c'est-à-dire que comme je crois qu'on peut l'attribuer à Nietzsche, cette phrase qui dit en substance le hasard est une loi qui voyage incognito.
You say men make plans and God laughs. You read that. Do you not believe in anything that's random or that comes in a random manner?
First of all, I didn't invent it. It's a term
that
European Jewish people use. It's a term in Yiddish, actually.
C'est un terme yiddish que les Juifs
ont. I always heard my grandma say it.
Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Ma grand-mère disait.
I don't think there is. I mean, I believe in chaos and randomness in.
Alors, je crois au hasard.
It's just that. I think what I mean by that is that we tend to think we have more control or power.
On a tendance à penser qu'on a plus le contrôle sur la
or agency over ourselves than we really have.
On a plus le contrôle de nous-mêmes que l'on a vraiment, en fait.
And I just find it so. I find beauty in how pathetic the futility
en fait,
of our effort
is. Il y a un côté beau dans le côté pathétique et futile de ça.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et tous ses prestigieux invités, rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Ne bougez pas, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossier et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur le revenu universel. Et avec les invités de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus, Christophe Meillan et Jacques Maillot qui ont fait le bilan sur le monde du spectacle. Restez sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, c'est l'occasion de réécouter ensemble des extraits des émissions marquantes de cette semaine, comme lundi dans Les Vraies Voix. À l'occasion de leur traditionnel duel, Philippe Rossier et ses chroniqueurs Philippe Bilger, Michel Pouzol et Céline Pina ont débattu sur le retour du revenu universel, un sujet qui suscite déjà une vive polémique en France. Écoutez.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossier.
L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir.
Pognon, 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 je n'entends parler que de ça tous les jours.
Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un.
2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache?
Eh oui, l'argent et le revenu universel qui revient sur la table. Alors on se souvient du candidat Benoît Hamon en 2017 qui faisait la promotion du revenu universel. Eh bien là, dans quelques jours, on va sortir Un temps pour changer. C'est le livre écrit par le pape François et qui fait également la promotion de ce fameux revenu universel. Un revenu universel, donc une même somme mensuelle versée à tous sans condition. Certains s'étaient moqués de Benoît Hamon en 2017 lorsqu'il l'avait proposé, mais en ces temps de crise sanitaire où la pauvreté augmente, où beaucoup d'entreprises vont devoir fermer, eh bien c'est peut-être le moment d'instaurer un revenu universel. En tout cas, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. L'État doit-il instaurer un revenu universel? La réponse c'est catégorique, net, clair. Hein. C'est non à 74%. L'État doit-il instaurer un revenu universel? C'est le duel des Vraies Voix.
C'est l'heure du duel.
Et voilà, le duel des Vraies Voix. Alors, les Vraies Voix qui sont avec nous ce soir, c'est Michel Pouzol, Céline Pina, Philippe Bilger et notre auditeur qui nous a rejoint, Frédéric Desautes-Seine, qui a composé le 0826-300-300 pour ce duel. Salut Frédéric.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Frédéric. Tiens, vous allez débattre, avant de débattre avec nos Vraies Voix, on va vous mettre face à Michel Pouzol. Voilà Michel Pouzol qui est pour le revenu universel. Et vous donc, si j'ai bien compris, mon cher Frédéric, plutôt contre, hein, en tout cas dubitatif, Frédéric.
Oui, oui, dubitatif, effectivement, très dubitatif.
Pourquoi ?
Écoutez, pour deux raisons. Alors d'abord, il y a la première qui est opposée généralement, qui est celle de dire, pour distribuer de l'argent, faut en avoir. Donc, il faut que cette richesse-là soit produite. C'est le premier point. Et puis, le deuxième point qu'on soulève plus rarement, c'est pour le distribuer à qui ? Ouais. Qui serait le bénéficiaire, très exactement, de ce revenu universel ?
Alors bon, si j'ai bien compris, c'est tous les Français qui en bénéficieraient du revenu universel, puisqu'on le cumulerait pour ceux qui travaillent, ce sera en plus du salaire. Michel Pouzol, sur oui. Le revenu universel. Tiens, le financement, il parlait
alors,
du financement.
Alors moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que ça fait maintenant 7 ans que j'ai dû faire, je sais pas, 150 conférences en France sur ce sujet, ouais. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'ai entendu à peu près toutes les doutes, les incertitudes, j'y ai travaillé, j'ai réfléchi beaucoup. Donc effectivement, c'est une idée qui a de quoi dérouter au regard de choses. Mais je vais vous dire d'abord une chose. La crise du Covid a validé, malheureusement, par l'absurde à peu près tout ce que je pouvais raconter moi dans mes soirées sur le revenu universel. Alors, le revenu universel pour tous, ben oui, l'idée c'est qu'il soit universel, en gros de la naissance à la mort, et il valide le fait que nous ayons une richesse en soi, intrinsèque, parce que nous sommes des humains dans une société. Voilà. Et donc, c'est ce qui valide le partage d'une richesse qui a déjà été produite. Monsieur disait, il faut produire la richesse avant de la partager. Ça fait 200 ans, 300 ans que notre pays produit une richesse phénoménale.
Mais là, concrètement, elle comment on pourrait financer, voilà,
alors,
par exemple.
Alors aujourd'hui, il y a plein de moyens de la financer. D'abord, ça ne va pas sans une grande réforme fiscale, bien entendu. Deuxièmement, dès l'instant que vous avez un revenu universel pour tous, eh bien, dès l'instant où vous travaillez, vous êtes imposé sur votre revenu.
Ouais.
Ce qui est logique, puisque c'est le principe de l'impôt sur le revenu. Donc ça finance une partie. On a parlé d'une taxe qui faisait beaucoup rire aussi à l'époque, mais qui commence à faire son chemin, qui est celle sur la taxe robot, par exemple. On pourrait vouloir taxer infinitésimalement toutes les transactions financières. On nous dit que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais on arrive très bien par la TVA à taxer toutes les relations commerciales d'un pays, donc c'est beaucoup moins compliqué. Donc des solutions de financement, il y en a plusieurs et qui se complètent. Donc ça, c'est une chose. Donc là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien. En 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans un pays exsangue qui avait connu 5 ans d'occupation, avec une industrie ravagée, des gens qui revenaient du STO, un pays en ruine, eh bien, on a décidé d'investir une part très importante de la richesse nationale pour créer la sécurité sociale et les retraites. Et est-ce que ça a ruiné le pays ? Non, on voit bien que la sécurité sociale, notamment, ça a enrichi le pays parce que ça nous a donné une filière santé forte, des professions fortes aujourd'hui. Donc ça, pour le financement, c'est vraiment ça la première chose.
Bon, alors, est-ce que vous êtes séduit, Philippe Bilger, par ce revenu universel ? Donc, vous pourriez toucher, Philippe Bilger, entre 700 et 1500 euros. Philippe Bilger,
évidemment, je n'ai pas la compétence tout à fait stimulante de Michel Pouzol, qui a fait beaucoup de conférences sur ce sujet. Il approuve le revenu universel. Moi, je me méfie toujours, mais probablement à cause de mon ignorance, devant ces sujets apparemment généreux qui peuvent susciter une adhésion immédiate, mais qui techniquement après posent des problèmes. Et puis, deuxième élément, et là peut-être vais-je tomber dans une forme de provocation, je n'aime pas l'idée qu'il y a un revenu universel pour tous. Est-ce que ça n'est pas un frein qui va manquer à une société ? Je conçois qu'il faille favoriser des gens modestes, des classes qui en ont besoin. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très stimulant dans une société de donner une somme à tout le monde au prétexte qu'on est né sur la même terre.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de lundi. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Christophe Meillant, producteur de spectacle, et Jacques Maillot, chansonnier, journaliste et directeur et producteur du théâtre des Deux Ânes. Et ensemble, ils ont débattu sur les difficultés particulières du monde du spectacle qui est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
30 ans de chronique persifleur, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le livre de Jacques Maillot ce matin, Point d'actu, illustré par Frédéric Deligne aux éditions de Boré. Je disais juste avant la pub que finalement vous êtes un casteur pour le gouvernement. Vous aviez vu Olivier Véran avant que tout le monde s'en aperçoive vraiment.
Oui, bien involontairement.
En 2015.
Parce que, 2015, parce que Olivier Véran avait proposé une loi qui m'avait beaucoup abusé. C'était contre l'anorexie
chez les mannequins.
Et c'est vrai que pour avoir assisté il y a longtemps, quand j'avais un magazine sur la 3, à des défilés de mode, j'ai été stupéfait par la maigreur des filles qui défilaient. Et je me suis dit, c'est quand même rigolo qu'un député de l'Isère
s'empare du
sujet. Donc j'avais fait une chronique sur lui, en ne sachant pas évidemment qu'un jour il serait notre pèlerin du Covid-19.
Oui, c'est ça.
Est-ce que parfois ça vous arrive d'écouter des députés, de vous dire tiens, lui il serait ministrable, lui non, de faire des projections justement ou...
Quelquefois, oui, on se dit celui-là, il pourrait être porte-parole du gouvernement, s'exprime bien.
Par exemple, est-ce que vous aviez des vues sur... Est-ce que ça peut aider ? Il y a des gens qui prennent des notes de l'autre côté de la radio.
Chez les gens, je crois que là, il n'a pas trop mal casté, Macron. Le peu de monde qu'il a sur le banc de touche, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'il les a recrutés, donc il ne reste pas grand monde.
Vous regrettez justement l'absence de véritables ténors comme il y avait dans la politique auparavant, quoi.
Oui, les Charles Pasqua, c'était un régal, Georges Marchais, Alexandre Sanguinetti, faut dire que je remonte à loin.
Moi, c'est vrai.
Commencé avec presque Jacques Duclos, donc c'était des personnages exceptionnels, truculents. Ouais. Maintenant, l'ENA est passé par là. Et
trop formaté,
ce qui arrive d'ailleurs dans les écoles de journalisme.
Bien sûr.
On formate trop les journalistes, on formate trop les hauts fonctionnaires.
Mais est-ce que les très intelligents ont vraiment envie de faire de la politique?
Je crois que non, parce qu'ils sont malheureusement... C'est ce qu'a dit très bien Édouard Philippe l'autre jour dans la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, où en préambule, il a dit « Vous êtes des élus comme moi, vous devriez faire attention. Il y a deux jours, j'ai eu une perquisition à mon domicile du Havre pendant 48 heures. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup, parce que je vois pas ce que j'ai pu cacher sur le Covid, j'ai pas fait de détournement. » Donc je pense que ça dissuade les...
Il y a peut-être des infirmières cachées dans des placards, on ne sait jamais.
Ah, je le souhaite pour lui.
Non, mais il y a eu probablement aussi beaucoup d'abus. On le voit, on paye les abus pendant des années de certains qui ont détourné aussi de l'argent, quoi, en
beaucoup
politique.
Beaucoup d'argent, et en plus, avec quand même une sorte de d'amnistie permanente, cette espèce de situation qui les rendait intouchables avec ça. Je pense qu'ils payent ça.
Ils payent ça, oui, bien sûr. Alors maintenant, il y a le monde du spectacle qui est au ralenti, monde du théâtre, etc., beaucoup de choses fermées. Vous, le théâtre des Deux Ânes ?
Eh bien, nous sommes fermés depuis le 17 mars de cette année. Et non, on n'a pas réouvert, puisqu'on devait réouvrir et on nous a mis le couvre-feu. Donc on s'est tout de suite adapté pour jouer en matinée, le samedi, le dimanche. Et puis, on n'avait pas commencé à faire le matinée qu'ils nous ont remis le confinement. Donc ça a été...
C'est quoi alors il y a beaucoup d'intermittents, donc ils bénéficient.
Alors, les intermittents sont protégés puisqu'ils ont l'année blanche, les aide beaucoup. Et quant au personnel fixe, on a quand même le chômage partiel, théoriquement jusqu'au mois de janvier. Donc ça nous a quand même énormément aidé, d'autant qu'il n'y a pas énormément d'employés fixes dans un théâtre.
Oui, et toutes les difficultés. On en parle aussi, on a un autre producteur de spectacle, Cécile, qui est en ligne avec nous.
Oui, qui est avec nous, Christophe Meillant. Bonjour, producteur de spectacle. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de m'accueillir sur l'antenne. Ça fait plaisir de vous retrouver.
Oui. Vous avez été aussi avec nous sur Sud Radio et notamment pendant Avignon, bien sûr, Christophe Meillant. Donc vous avez entendu Jacques Maillot à l'instant nous dire que fermé depuis le 17 mars avec des espoirs d'ouverture et puis boum, couperet. Non, il faut fermer. L'ensemble du monde du spectacle est au ralenti. Alors le plus difficile.
Plus qu'au ralenti.
Oui, plus complètement à l'arrêt.
À l'arrêt. C'est l'arrêt. C'est l'arrêt. Nous, producteurs de spectacles, je parlais également pour l'ensemble de mes confrères, de mes collègues, que ce soit les attachés de presse, les chargés de production. C'est un arrêt terrible pour l'ensemble de la profession. Enfin, on s'en rend pas compte, mais
fatal pour
certains, beaucoup vont y laisser leur peau. Alors c'est vrai qu'il y a des aides, Jacques le disait, mais ces aides sont pas suffisantes pour l'ensemble des producteurs, parce que les charges fixes d'une société, c'est beaucoup plus que les aides qu'elles peuvent apporter. Donc aujourd'hui, en fait, là où on est un peu en colère quand même, je sais pas si Monsieur Maillot est d'accord avec moi, c'est qu'on a aucune visibilité. Alors c'est peut-être pas de leur faute, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, on a repris, il y a eu les zones vertes, après les zones rouges, on s'est dit, bon, on part en tournée. Moi, je produis un artiste que M. Maillot connaît certainement, Tanguy Pastureau. On se retrouvait par moment à 24 heures près avec une jauge pleine et le lendemain, une demi-jauge. On ne peut plus travailler, de toute façon, on ne travaille plus. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver tous des solutions et essayer de garder le moral. Bien sûr qu'il y aura un après, bien sûr que le spectacle vivant ne va pas mourir.
Mais
on ne sait pas.
Emmanuel Macron doit s'exprimer en fait demain soir. Est-ce que vous espérez qu'il apportera un éclaircissement, en tout cas pour le monde du spectacle et du théâtre, Jacques Maillot et ensuite Christophe Meillant?
Moi, je l'espère parce que c'est exactement ce que vient de dire.
Mais vous espérez quoi à Noël, pendant les fêtes, non?
Peut-être, mais si c'est Noël, c'est bien. Si c'est plus tard, c'est bien. Mais qu'on nous le dise, c'est-à-dire, ils nous font le coup des restaurateurs. On dit pas à un restaurateur le lundi soir, vous pouvez ouvrir demain matin, il faut qu'ils remplissent ses frigos. Nous, c'est pareil, il faut qu'on prépare le spectacle, il faut qu'on prépare le public, qu'on informe, etc. Je crois que ces gens-là, ils sont trop formatés dans un système administratif qui n'est pas du tout le nôtre, malheureusement.
Et même psychologique, il faut une date. Psychologiquement parlant, il faut une date.
Et là, c'est dramatique. Les gens sont dans l'incertitude. Et je crois que le projet d'Emmanuel Macron demain, c'est justement de dire je vais lever cette insécurité parce que les gens ne savent plus où ils vont. Et ça, c'est dramatique. Ouais.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, restez sur Sud Radio. On va revenir très vite avec André Berkoff dans tous ses états et son invité Linda Kebab, déléguée nationale et porte-parole d'unité SGP Police FO. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver André Berkoff dans tous ses états et son invité Linda Kebab, on va s'écouter une très belle chanson du groupe britannique Sad. Balade soul aux accents 80s et aux percussions cubaines. Elle raconte les aventures d'un playboy qui collectionne des histoires sans lendemain, sans jamais s'attacher. Voici Smooth Operator sur Sud Radio. Dans le meilleur de Sud Radio, très beau titre du groupe britannique Sad, extrait de leur premier album Diamond Life. Allez, on poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. Mercredi, l'animateur recevait Linda Kebab, déléguée nationale et porte-parole d'unité SGP Police et Faux, venue présenter son livre « Gardienne de la paix et de la révolte », un livre plutôt incisif sur l'institution policière. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Alors Linda Kebab, la paix et la révolte, en ce moment la paix, on ne peut pas dire qu'elle se porte très bien. Elle se porte peut-être un peu plus mal que les victimes du Covid, en tout cas c'est pas loin. Et puis la révolte, oui, mais quelle révolte justement. Et avant de commencer, je voudrais vous faire entendre ce sonore fait par le site Brut et le journaliste Rémi Buisine. Écoutez.
À 20h15, c'est le début des tensions entre les associations présentes sur place et les forces de l'ordre. Et au milieu de tout ça se trouvent tout simplement les réfugiés dans leurs tentes qui se retrouvent délogés violemment par les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, les réfugiés sont obligés de quitter la place de la République et vont devoir trouver un autre endroit où passer la nuit. Ils se retrouvent ensuite dispersés par les forces de l'ordre à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Et à ce moment-là, moi je me fais molester.
Voilà, la presse molestée, on a vu les images, bon, il n'a pas été matraqué, il a été un peu piétiné, effectivement. Mais le problème, il n'est pas là, effectivement, les journalistes doivent faire leur boulot, et c'est la moindre des choses. Mais Linda Kebab, je trouve que cette histoire, hier soir encore, il y a eu un rassemblement plus pacifique, mais ça pose vraiment le problème. D'abord, comment... ces réfugiés, enfin ces migrants, ou ces sans-papiers, ou ces sans-abri, comment ils sont-ils venus place de la République? D'abord, on voit les images, on voit, je veux dire, des tentes, toutes les mêmes d'ailleurs, assez neuves. Bon, les gens arrivent, comment sont-ils arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Ah bah, selon moi, c'est pas selon moi, ce sont les faits surtout.
Ouais.
Alors, c'est très bien que vous posiez cette question parce qu'il faut venir à la genèse de cette histoire, qui est bien triste au demeurant, et pas seulement pour les images, mais aussi pour la misère humaine que ça illustre.
Ça représente, mais
ils sont, pour la plupart, donc, issus des camps qui sont disséminés dans le nord de Paris. Ici et là, le long des canaux également dans Paris.
Près du micro, pardon.
Pardon.
Ah, oui.
Il s'avère qu'en fait, des associations, notamment d'extrême gauche, des militants d'extrême gauche, des avocats très proches de ces mouvements-là, et évidemment des élus, dont ceux de la France Insoumise, ont organisé une opération coup de poing. Donc il s'agissait de rassembler tous ces pauvres migrants sur la place de la République, de les mettre dans les tentes, et à ce moment-là, d'attirer l'attention, et notamment celle des médias, parce qu'évidemment, les caméras ne sont pas arrivées ici par hasard. Chacun a été alerté assez soigneusement par ces organisateurs. Et évidemment, il faut s'interroger, et je pense que vous allez me poser la question ensuite sur l'opération de police qui a suivi. Mais il ne faut pas être dupe, en fait. Ça a été orchestré, c'est un échec orchestré, je dirais même.
Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes spontanément en place de la République.
Non, ça a été orchestré à une heure où on savait très bien qu'une mise à l'abri serait extrêmement difficile, ou en tout cas presque impossible même à organiser dans l'heure, avec une seule et unique intention, c'était d'attirer l'attention. Alors, si la situation des migrants doit... en effet interrogés dans notre pays et la
Bien
façon
sûr.
Dont ils sont traités ou pas du tout traités d'ailleurs. Ça, c'est indéniable. La façon dont on les a utilisés, puisque après, à la suite de ces images-là, alors qu'il est, ils errent dans les rues, ils n'ont pas de tente, et leur situation, elle ne s'est pas améliorée, voire même elle s'est aggravée, parce que, en fait, ces hommes-là, on
vous
s'est
dites,
servi
on
de...
Vous dites les a utilisés, c'est
mais
ça.
Bien sûr qu'ils ont été utilisés. Enfin, vous savez, c'est pas trop un secret, mais j'effectue régulièrement des maraudes alimentaires sur Paris avec ma famille, et donc il arrive que l'on traverse des endroits où il se trouve des micro camps de migrants, nos moyens étant limités, on ne peut pas se permettre de distribuer sur les gros camps qui, eux, sont plutôt gérés par des grosses associations. Et ces personnes-là ont conscience, des fois, quand on échange avec eux, que, un, leur situation est extrêmement difficile, mais de l'autre, qu'ils sont aussi utilisés. Et ils nous le disent. Moi, j'ai affaire à eux, des fois, et ils m'expliquent leur situation et le fait que non seulement ça n'avance pas, mais qu'en plus, ils sont régulièrement topés par des associations qui leur disent qu'il faut faire des opérations coup de poing, il faut faire attirer l'attention médiatique. On leur parle à eux directement de violences policières, alors que la plupart du temps, ils n'ont jamais affaire à la police. Enfin, bref, on essaie de leur inculquer des choses qui sont complètement loin de leurs préoccupations quotidiennes. Donc oui, évidemment, il y a une instrumentalisation de leur situation, et je trouve ça vraiment dramatique et totalement pas humaniste.
Oui, non, c'est-à-dire que en fait, le pouvoir politique n'ayant pas réglé le problème de l'immigration et de le problème des sans-papiers, le problème enfin, des arrivées, n'ayant pas mis le curseur quelque part, et vous le dites dans votre livre, on va parler, c'est vous dites au fond, tout le monde pense que voilà, nous, on est les salauds, les violents, les ceux qui cognent, etc., etc. Tout le monde et la police. Mais il dit, n'oubliez pas que nous exécutons aussi un certain nombre d'ordres, etc. On va en reparler. Mais justement, il y a eu quand même des images aussi assez violentes, quand même. Je ne parle pas seulement du croche-pied hein, que tout le monde a vu, mais d'autres images. Et on se dit, au fond, alors on voudrait, en fait, au-delà de la polémique, on voudrait comprendre comment ça fonctionne dans ces cas-là. Vous êtes au cœur du dispositif. Quand, par exemple, on dit, voilà, vous devez évacuer ce place de la République, il n'y a pas de raison, ils sont pas là, illégales. Qui, d'abord, qui donne l'ordre et quelles sont les forces? Est-ce que ce sont des forces expérimentées qui savent ce qu'il faut faire? On en parle aussi pour les manifestations, parce que vous parlez beaucoup dans votre livre que quelquefois, on met face aux manifestants ou face à des gens qu'il faut déplacer, on met des gens qui ne sont pas formés pour ça.
Monsieur Berkoff, vous lisez dans mes pensées. Vous posez extrêmement bien la question, puisque c'est exactement, et je vais vous répondre très clairement, il faut s'interroger en effet sur la façon dont l'opération a été menée, le curseur qui a été... quelle est la jauge à ce moment-là du donneur d'ordre, donc en l'occurrence il s'agit de la préfecture de police et donc du préfet de police, quelles instructions ou pas il a pu recevoir du ministre de l'Intérieur, on ne sait pas, ouais. Il faut l'interroger. Mais nous sur le terrain, puisque je suis déléguée de la première organisation de policiers en France, et en l'occurrence oui. Du corps des gardiens de la paix, donc ceux qui exécutent les ordres, tout bonnement, on a conscience aussi que sur cette opération, il y a eu un gros problème. La première question qu'il faut se poser, et que tout journaliste doit se poser, c'est y avait-il urgence, et en l'occurrence le préfet de police aurait dû se poser cette question, et j'espère qu'il l'a fait, y avait-il urgence à démanteler ce camp sur la place de la République? Donc, qui connaît cette place sait que c'est une grande place, qui est piétonne. On sait qu'il n'y avait pas d'entrave à la circulation des voitures à ce moment-là. Qu'évidemment que l'emprise sur la voie publique de manière anarchique ne peut pas être acceptée dans un état de droit, mais de fait et au regard de la situation, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'émeutiers ou de quelque chose qui a vocation à être violent.
C'est pas des gens qui étaient casseurs ou compagnie.
Et donc du coup, à partir de là, de faire un diagnostic qui soit cohérent et intelligent, à une heure assez tardive, en tout cas il faisait nuit, et de se demander quels moyens mettre en œuvre, là, à l'instant T, pour faciliter la situation et faire en sorte qu'elle ne dégénère pas. Est-ce qu'il ne valait pas mieux les laisser passer la nuit, sachant qu'il faut rappeler, il faut que les auditeurs le comprennent, c'était orchestré, il y avait des avocats, il y avait des élus, notamment des députés, il y avait des associatifs, il y avait des journalistes qui ont été avisés. J'ai à peu près l'intime conviction, et je pense que tous les auditeurs l'ont, de se dire que si la nuit était passée, tous ceux qui ont été à l'affrontement avec les policiers, parce que finalement ce ne sont pas les migrants qui ont affronté les policiers, ce sont les avocats, les associatifs, des députés qui, avec leur écharpe tricolore, sont allés la salir en démontrant à quel point on pouvait être un élu finalement pas forcément à la hauteur de son mandat au sein de la République, ces gens-là n'auraient pas passé la nuit.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Berkoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h avec des débats et des invités. Allez, je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de Valérie Expert. Jeudi, l'animatrice vous proposait son habituel débat d'experts, coup de cœur, coup de gueule des débatteurs. L'occasion de rendre hommage à Diego Maradona, disparu tragiquement le 25 novembre.
Le meilleur de Sud Radio.
Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Michel, commençons avec vous. Michel Taube.
Moi, c'était un coup de cœur et un coup de cœur, avec... un petit coup de gueule aussi, mais Maradona, évidemment, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de Maradona qui était... Alors, Dieu n'est pas mort, comme l'a titré l'équipe, même si Nietzsche l'avait annoncé il y a déjà longtemps. Mais effectivement, c'était un des rois du foot qui est le sport le plus populaire et le plus universel. Et la vie de Maradona est tellement représentative et symptomatique de ce monde de folie dans lequel on vit. Où pour un ballon peuvent se brasser des milliards d'euros, des foules entières, des histoires absolument passionnantes, des excès comme Maradona a pu en connaître. Mais bon, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer ce fait universel de la mort de Dieu, comme l'a dit l'équipe.
Oui, Michel, avec ta permission, c'est Jacques Maire qui t'appelle.
Oui.
Juste pour te dire que c'est Panem & Circenses, il n'y a rien de bien nouveau.
Ouais, et moi, je regrette
franchement franchement, la financiarisation du foot et du sport en général, c'est quand même problématique. Mais bon, je peux comprendre. De toute façon, aujourd'hui, il y a deux choses qui marchent. Le foot et bien sûr, on va dire un mot sur la force des journalistes qui font l'opinion publique.
Non, oui, mais là, c'est pas correct.
Il n'y a pas que ça.
C'est les passionnés de foot. C'est...
Ouais, je vous cite juste le Gorafi. Vous savez, le Gorafi, qui est un site parodique, qui dit en hommage à Maradona, la ville de Naples suspend le trafic de drogue pendant 2 heures. Voilà. petit trait d'humour, parce que c'est vrai que c'était un grand joueur, mais ça a aussi été un personnage assez sulfureux. Thomas, vous étiez fan de Maradona?
Bah, comme beaucoup de gens de ma génération qui sont admirateurs de sport et de foot en général, effectivement, Maradona, c'était une icône à la fois au travers de ce qu'il a fait en termes de football et de sa vie qui a été avec des hauts et des bas, mais c'était quelque part quelqu'un qui a réussi à transcender le foot au-delà des aficionados de ce sport-là, et il va dans tous les pays, et ça sera toujours une icône, et aujourd'hui, quand on voit les réactions des gens qu'il y a eu, c'est absolument invraisemblable. C'est vraiment quelqu'un qui a dépassé les frontières de son sport, qui est pourtant déjà un sport qui est le plus planétaire au monde. Mais quand on parle de Maradona, on ne parle pas que de foot. On parle d'un gamin qui a grandi dans une maison sans eau, sans électricité. On parle de quelqu'un qui s'est engagé pour des causes. Et c'était une icône et ça restera quelque part un génie de ce sport.
Et surtout parce qu'il a battu les Anglais.
Ouais, voilà. Judith, je ne vous demande pas votre avis, si, c'est très sexiste ma remarque. C'est très sexiste ma remarque, mais bon, c'est comme ça. Thomas Porte, vous vouliez attirer l'attention sur le cas d'une aide-soignante, qui est menacée d'expulsion.
Ouais, c'est absolument, son nom commence à un peu circuler sur les réseaux et on a vu cette décision absolument scandaleuse. Elle s'appelle Lydia Vera, elle est aide-soignante dans un EHPAD en Isère, donc elle a travaillé depuis le début de la crise, elle est en France depuis 2019, elle a été remerciée par le gouvernement par une prime de 1 000 euros, et aujourd'hui on a découvert dans une décision que le préfet voulait l'expulser du territoire. Dans une situation de pandémie où on manque de salariés, où cette personne elle a travaillé souvent sans protection, puisque l'État n'a pas assuré sa protection, elle a été défaillante, aujourd'hui la République remercie cette personne en expulsion du territoire, c'est absolument scandaleux, je crois qu'on ne peut pas accepter ce genre de décision, et c'est incompréhensible dans la période qu'on traverse. Je crois qu'il faut que Gérald Darmanin, plutôt que de saluer le préfet allemand pour son maintien de l'ordre, ferait mieux de se mêler de ce dossier et de rappeler à l'ordre le préfet de ne pas expulser cette personne-là qui sauve des vies au péril de la sienne et elle doit rester sur le territoire national français.
Alors, je ne sais pas s'il l'a félicité, hein, le préfet allemand, puisqu'il a demandé une enquête sur ce qui s'est passé place de la République. Et,
si, il lui a apporté son soutien.
Au préfet allemand?
Oui. C'est tout à fait. C'est dans l'ordre des choses.
Très bien.
On voulait éviter que la place de la République devienne un squat permanent, évidemment, il fallait prendre des mesures. Après, qu'il y ait eu des excès policiers, certainement. Pour le reste, évidemment, la gestion de crise est très, très compliquée. Et le cas de cette personne dont vous parlez, là aussi, c'est tout l'échec de la politique d'immigration, de relations internationales de notre pays, qui ne sait pas effectivement valoriser, reconnaître et sécuriser la présence de personnes dont le pays a besoin, notamment dans le monde de la médecine. Il y a beaucoup de médecins qui viennent de Roumanie et d'ailleurs, et qui mobilisent des énergies folles, des moyens considérables, avec des drames humains sur une gestion de flux migratoires qu'on n'arrive pas à gérer.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans un instant avec la chronique de Cédric Cizère, qui a répondu comme à son habitude à vos nombreux messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio, c'est toujours un plaisir de vous accompagner comme chaque week-end. Et avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter un titre du chanteur Raphaël qui vous propose cette fois un duo avec Pomme, la jeune chanteuse folk dont le deuxième album Les Failles a été certifié disque d'or. C'est un titre à la fois sombre, entraînant et cinématographique que je vous propose de découvrir tout de suite sur Sud Radio. Voici Train du soir.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux.
Dans le meilleur de Sud Radio, extrait du nouvel album de Raphaël intitulé Haute Fidélité, dont la sortie est prévue, si tout va bien, en mars 2021. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mercredi, le chroniqueur a répondu à vos nombreux messages laissés sur le répondeur de Sud Radio, avec d'ailleurs un message inédit d'un auditeur qui a poussé un coup de gueule sur le concours Miss France 2021. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Et nous sommes mercredi, le jour des enfants. Hein, et Cédric Cizère est avec nous. Il en dit des conneries, hein, vraiment.
Bah,
bonjour,
vrai,
Cédric.
Vrai. Je suis un grand enfant. Bonjour, mes chers compatriotes. Ça va?
Oui, ça va, et vous?
Ben, ça va très bien. Quel jour on est aujourd'hui?
Ben, on est mercredi.
Et sauf qu'on est mercredi combien?
25.
25, ça veut dire que dans un mois pile, ce sera ça.
Ah oui.
On se croit à New York, Cécile. Je nous vois main dans la main sur la 5ème avenue.
Ouais.
Après une balade sur Times Square, on va voir une comédie musicale à Broadway, tous les deux.
C'est ça.
Je monte sur scène pour vous demander en mariage.
Ouais, et je dis non.
Vous dites non, mais je vous emmène quand même dans un restaurant typique de New York.
Ah, votre
le Buffalo Grill.
Oh là là.
Le Buffalo Grill que j'adore, parce qu'il y a toujours la petite salade qu'il y a depuis 3 jours sur la table, et j'aime beaucoup. Alors à propos de Noël, vous savez que j'ai du goût quand même. Hein.
Ouais.
J'ai vraiment beaucoup de goût et je sais draguer les meufs. Alors à propos de Noël, alors hier, tout le monde a parlé de la prise de parole du professeur Rémi Salomon. Je pense qu'on avait certainement parlé, qui a choqué beaucoup de Français. Il a expliqué que pour Noël, on pouvait aller chez les personnes âgées, mais qu'il ne fallait pas manger avec elles. Ça, vous avez vu, hein, pour lui, il faut couper la bûche en deux, puis se séparer pour que les grands-parents mangent leur part dans le salon et vous dans la cuisine. Et forcément, c'est très pratique et ça fait réagir les auditeurs.
Oui, bonjour, je suis Philippe Lenin et pourtant j'habite à Noisy-le-Grand. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec le professeur Salomon. Hein. Je me faisais une joie de voir mes grands-parents et de tout partager avec eux.
Ouais.
Partager des discussions, partager les repas et surtout partager le Covid.
Ouais.
Bah oui, je veux les couvrir de bisous, de postillons.
Ouais.
Et j'ai même me laver les dents avec leur brosse à dents.
Ah bon,
ça fait 25 ans que j'attends d'hériter de leur baraque à Saint-Tropez. Je vais pas craquer à quelques jours du bonheur.
Ah oui, bah on veut tous hériter. Non, mais c'est une technique. C'est vrai que c'est une bonne technique pour hériter.
Ouais.
Alors on sait tous que Noël, c'est le jour où on retrouve nos familles, pour tous ces bons moments où on critique ceux qui sont pas là. Vous savez, hey, tu sais que Maurice, il est divorcé? Ah ben ouais, il paraît qu'il est impuissant. Bon, Janine, elle a préféré se trouver un petit jeune millionnaire. Je crois qu'il s'appelle Patrick Roger.
Ouais.
Alors, à Noël, nos grands-mères, nos grands-parents sont les seuls qui donnent encore de l'argent. Vous voyez, ils donnent un petit chèque comme ça, un petit billet. Comme ça, c'est les seuls qui font encore ça. Moi, la chance que j'ai, c'est que mon grand-père, il me reconnaît plus. Donc, je me fais passer pour le plombier, pour le facteur, pour le réparateur
mais
télé.
Mais non, mais c'est
si,
pas
pour
bien.
La masseuse, mais oui, parce qu'il donne à chaque fois 20 euros de pourboire.
Mais quelle méchanceté.
En une heure, je me fais 1000 euros, c'est génial. J'adore ça. D'ailleurs, je sais qu'il nous écoute et il me dit à chaque fois, t'as vraiment de la chance, Cédric, de bosser avec Mariti et Gilbert Carpentier.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Il a raison. Non, mais moi, de toute façon, j'écouterai, je sais pas si vous écouterez aussi, les recommandations scientifiques pour Noël. Noël. Voilà, j'en respecterai parce qu'en plus, couper la bûche en deux et aller la manger dans la cuisine pendant que mes grands-parents la mangent dans le salon, ça ne me changera pas beaucoup.
Non.
Oui, ça ne me changera pas beaucoup. Parce que quand je vais chez une meuf pour pécho, on fait connaissance sur le canapé, ensuite on se sépare, elle a un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre et moi tout seul chez moi. Donc, vous voyez, comme quoi, ça ne change absolument rien pour moi.
Ah, c'est la grande classe.
Il a une vie pourrie.
C'est une tranche de vie que je vous donne comme ça. Alors, vous, Patrick, votre jour préféré de l'année, c'est pas le jour de Noël.
Non. Ah bon ?
Non, c'est le jour de ceci. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on a perdu Patrick.
Ouais, alors là, ouais.
Et si je vous fais ce geste, Patrick ?
Miss France.
Bravo, oui, Patrick Roger.
Si vous avez été Miss France, quelle année ?
Peut-être l'année prochaine.
Bah, franchement, vous pourrez.
Il
vous
me manque à peu près 40 cm.
Oui, mais vous pourriez. Franchement,
comme, vous.
Comme moi, oula, moi, ils m'ont beaucoup de choses. Ils m'ont beaucoup de choses partout. Alors, le jour de l'élection de Miss France, on peut couper cette musique qui me stresse. Alors, moi, je suis sorti avec une Miss France.
Non.
Si, un petit peu. Oui.
Miss France,
Miss France 1958. C'est la seule qui a voulu de moi. Les autres, elles m'ont dit, ça ne m'intéresse pas, casse-toi de là. Alors, vous avez vu qu'on connaît le jury des Miss France. Alors, sachez qu'il n'y aura aucun homme cette année dans le jury Miss France, ça c'est magnifique, aucun. Il ne sera composé que d'anciennes Miss France pour les 100 ans et un auditeur a voulu m'en parler.
Bonjour, je m'appelle Franck Einstein.
Ah oui.
J'appelle de Malakoff, une ville entre Paris et l'île Maurice.
Ah oui.
J'ai vu qu'il n'y avait aucun mec dans le jury Miss France. Donc ça veut dire que la Miss France 2021 va être dégueulasse.
Et pourquoi ?
Bah oui, les meufs n'ont aucun goût en meuf.
Ah bon ?
Souvenez-vous quand votre mère vous disait « Mon chéri, je vais te présenter ta future fiancée, tu vas voir, elle est hyper jolie. »
Ouais.
Ouais, bah sauf que quand tu découvrais la fille, c'était un mélange entre Elephant Man et Ribéry.
Ça c'est vrai.
Oh. Et comme on ne peut rien refuser à sa mère, bah ça fait 7 ans qu'on est mariés.
Ah d'accord.
Ouais, bah écoute, tu fermes les yeux et puis ça passe, quoi.
Ah, il a raison, Franck.
Vous pensez qu'on est capable de voter pour une fille moins jolie qu'une autre ?
Alors, je pense. Je vous expliquerai ça, je pense. Mais surtout, c'est qu'en fait, c'est juste que vous n'avez pas de goût en meuf. Parce que ma mère, par exemple, c'est vrai, il a raison. Ma mère, à chaque fois, elle trouve tout le monde joli. Mm. Elle me dit, oh là là, c'est vrai, ce mec, il lui manque 14 dents, il louche. Mais franchement, il est très charmant. Mm. À chaque fois qu'elle me disait, je te présente cette meuf, elle était pas, c'est pas pour moi, en tout cas.
D'accord.
Et donc, voilà, pour faire plaisir aux féministes, maintenant, on n'ose plus avoir un mec dans le jury des Miss France. Un mec n'a plus le droit de juger la beauté d'une femme. Ça va encore alimenter les guerres bidons des hommes contre les femmes. Au lieu juste faire l'égalité, ça serait bien 50% de mecs, 50% de meufs, mais non, parce que tout le monde sait que les mecs sont de gros bofs sexistes. Patrick et moi, on en est des exemples, on est des gros bofs, c'est connu. Bleh, les mecs, caca, bleh.
Moi, pas du tout.
Bah, si, bah. Moi, tu m'es juré au concours Mister France, je vais pas choisir le plus musclé. Hein.
Ah,
le plus... ah non, je prends le plus dégueulasse. Bah, je suis jalousie, je suis jaloux, bien sûr, je ne suis que jalousie. C'est terrible, ce sera pareil pour les Miss France. Alors, de toute façon, d'ici 5 ans, Marlène Schiappa, elle aura repris la tête des Miss France, donc plus personne ne regardera le concours puisque les Miss, elles défileront en combinaison de ski.
Ouais.
Bien évidemment.
Mais ça peut être sexy, hein.
Ah, mais moi, je suis très sexy, même en combinaison de ski. De ski, donc il n'y a pas de problème. Mais franchement, ils auraient pu prendre au moins, je sais pas, un mec. Amanda Lear, par exemple.
Ouais.
Ou Vincent McDoom.
Ouais.
Vincent McDoom, il fait les deux. C'est
oh,
c'est
mais
parfait.
Non,
mais si, ça aurait été un mélange des deux. Ça aurait... On l'embrasse, en plus, c'est mon ami. Alors, est-ce que vous avez appris la grande nouvelle ? Omar Sy est raciste. C'est terrible, ça.
Ouais,
Omar Sy n'aime pas les Noirs.
Sur les réseaux sociaux.
Ah bon,
sur Twitter, il a posté une vidéo où il reprenait, vous savez, le personnage de Doudou, son personnage mythique, et en chantant Doudou d'Aya Nakamura, votre artiste préféré. Et il s'est fait traiter de raciste. Et moi, je suis d'accord. Un grand humoriste a voulu nous en parler.
Bonjour, je suis Michel Leb, ancien humoriste et futur beau-père de Cécile de Médibus.
Ah oui ?
Je voudrais apporter mon soutien à Omar Sy, parce que moi aussi, en tant que personne originaire d'Afrique, je sais ce qu'il ressent. J'ai été vilipendé toute ma carrière, hein, que ce soit pour mon sketch sur les Chinois, la mouche tsetse et le boudon.
Ah oui ?
Ou alors ce sketch qui m'a rendu riche et raciste.
Ah dis donc, présente tes mains, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines.
Ah oui ?
J'en profite pour vous dire que je vais refaire mon premier spectacle l'année prochaine à l'Olympia.
Ouais.
Bon, j'ai enlevé tout ce qui pouvait être raciste, donc maintenant mon spectacle dure 4 minutes.
Ah, il est pas terrible au niveau des imitations.
Non, pas
il
terrible, pas, Michel Leb, j'adore. Alors, c'est vrai que le sketch de Omar Sy, moi, en doudou, j'étais très choqué. Voilà, que fait la Licra, que fait SOS Racisme ? C'est bien évidemment de la xénophobie. Mm. Ça m'a rappelé les heures sombres de l'humour quand Gad Elmaleh se moquait des blonds. Mm. Franchement, c'était hyper raciste. Ça vous avait choqué puisqu'il parlait de vous, Cécile.
Tellement, tellement.
Mais bien sûr, et Omar Sy se moque des noirs. Et oui, je dis noir parce que black ou personne de couleur, je trouve ça ridicule puisque blanc, c'est une couleur aussi. Donc je suis blanc et je suis de couleur. Et moi, j'ai le droit de dire noir parce que mes parents sont noirs.
Ah bon ?
Ouais, ils passent 8 heures par jour au point soleil.
Ah voilà.
Donc ils sont noirs, on dirait Bernard Montiel.
De toute
façon, pour conclure,
quoi.
Avec cette histoire ridicule, on sait tous que Jarry est homophobe et pire encore, on sait tous que Rabbi Jacob est antisémite. Vous saviez ça, que Rabbi Jacob est antisémite ?
Ah non, on ne savait pas.
Ben voilà,
on découvre des infos ce matin, c'est surréaliste.
Bon, alors, heureusement, pour surmonter le moral, hier soir, il y avait la 11e prise de parole de Manu Macron depuis le début du coronavirus. Et Jean Castex a voulu préciser quelque chose à propos des cinémas qui vont rouvrir, d'après ce qu'on m'a dit, le 15 décembre, mais avec un couvre-feu à 21h. Alors on fonce à Matignon avec un Premier ministre un peu sur les nerfs, hein, vous allez voir.
Françaises et Français, le gouvernement vous rappelle que dès le 15 décembre, vous pourrez retourner au cinéma.
Oui.
Mais comme il y aura un couvre-feu à 21h, vous devrez quitter la salle au bout de 20 minutes. Et vu la qualité du cinéma français, Au lieu de râler, vous feriez mieux de nous remercier. Bande de peigne-cul.
Oh, ah oui.
Voilà.
On m'avait dit qu'il était énervé aujourd'hui.
Ah oui, oui, ça il est énervé. Il
prépare sa conférence de presse de demain, je pense.
Il faut
c'est pour
qu'il
ça.
Se détende. On va lui envoyer des tisanes, des tisanes à la camomille.
C'est ça.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et l'humoriste Cédric Cizer vous donne rendez-vous du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. On se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.